This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
11 décembre 1985. Le parking du magasin d'informatique Rentec Computer, dans la banlieue de Sacramento, est noir de monde. Parmi la foule, une quinzaine d'agents du FBI récoltent et analysent les débris d'une bombe éparpillée sur l'asphalte. Cette fois, l'attaque a fait un mort. Le patron du magasin, Hugh Scruton, a péri dans l'explosion. Le responsable de l'attentat, celui qu'on surnomme Yuna Bomber, est désormais considéré comme un meurtrier activement recherché par toutes les polices du pays. Mais un meurtrier anonyme. Lorsque se produit l'explosion de Sacramento, cela fait déjà 10 ans que Yuna Bomber commet ses crimes. 10 ans de colis piégés envoyés aux quatre coins des États-Unis. 10 ans d'une traque ayant coûté des millions de dollars. Et pour quel résultat ? Le néant. Les enquêteurs n'ont pas la moindre piste. Tout chez ce criminel est déroutant. Contrairement aux autres tueurs en série habituels, Yuna Bomber n'a jamais cherché à entrer en contact avec les autorités ou la presse. La célébrité ne semble pas l'intéresser. Mais alors que veut-il ? Quel est le point commun entre toutes ces victimes ? Et quel but espère-t-il atteindre ? Discret, patient, ingénieux, Yuna Bomber se contente d'agir sans laisser la moindre trace. Mais tôt ou tard, il fera forcément un faux pas. C'est le seul espoir du FBI à ce stade. Il faut qu'il commette une erreur. Avec le temps, même le plus brillant des criminels finit par se trahir.
Ce matin-là, un froid mordant règne dans les rues de Salt Lake City. Theodore Kaczynski s'est vêtu chaudement, mais surtout intelligemment. Son épais sweatshirt à capuche, d'un gris terne et banal, masque son visage afin de le dissimuler parmi les badauds. Pour parfaire son anonymat, il s'est muni de lunettes à verre fumé. Entre ses mains, il tient une petite boîte en bois contenant une bombe à tuyaux d'une puissance dévastatrice. Nous sommes le 20 février 1987 et Théodore se dirige d'un pas nonchalant vers sa nouvelle cible. Il a prévu de déposer sa bombe sur le parking d'un autre magasin d'informatique. Dans son esprit, ceux qui vendent ou vénèrent la technologie sont des scélérats. Et de tels nuisibles méritent un châtiment terrible.
Ce 20 février, dans la boutique informatique Cams Inc. de Salt Lake City, une secrétaire en charge de l'accueil des clients s'offre une pause près de la machine à café lorsqu'elle remarque un détail par la fenêtre. Face à elle, sur le parking, un homme à capuche se tient immobile entre les voitures. Il tient à la main une boîte transpercée de 4 clous. Intriguée, la secrétaire s'approche de la vitre et parvient à distinguer le visage de l'homme. Un teint pâle, une fine moustache, des traits impassibles et un regard dissimulé sous une paire de lunettes noires.
En croisant le regard de la secrétaire, Théodore sursaute brusquement. Il cesse de respirer. Cette femme, derrière la fenêtre, est en train de l'observer. Il le sent. Et cette simple information fait courir un frisson d'horreur dans son dos. Jusqu'ici, personne ne l'avait vu directement. Théodore réfléchit à toute vitesse. Que doit-il faire ? Annuler l'opération et rentrer chez lui ? Non, il est trop tard pour reculer. Et de toute façon, que pourrait dire cette femme à la police ? Qu'elle a vu une silhouette grise, un visage masqué par une capuche et dissimulé sous des verres opaques ? Non. Tout bien considéré, il ne risque rien du tout. Rassuré et confiant, Théodore dépose calmement la bombe à ses pieds, puis s'éloigne du parking.
Quelques instants plus tard, la secrétaire se détourne de la vitre et interpelle son patron, Gary Wright, pour lui décrire ce qu'elle vient d'apercevoir. Intrigué, ce dernier sort du magasin et ramasse la boîte posée sur le sol. Le détonateur s'enclenche. La bombe explose dans une gerbe de feu et un rugissement strident. Les enquêteurs du FBI sont immédiatement alertés. À leur arrivée, on leur apprend que les jours de la victime ne sont pas en danger. Gary Wright a pu être soigné et son pronostic vital n'est plus engagé. On leur rapporte également une autre information. La secrétaire du magasin aurait aperçu le criminel responsable de l'attaque. Les enquêteurs n'en croient pas leurs oreilles. Vraiment ? Après tant d'années, quelqu'un aurait enfin vu Yuna Bomber en chair et en os ? Un portrait robot est dressé, d'après le témoignage de la secrétaire. C'est celui d'un homme brun, à moustache, de type caucasien, au visage relativement neutre. Le portrait robot est placardé d'un bout à l'autre des États-Unis, et le FBI promet une récompense de $50,000 à qui pourra lui fournir des informations sur cet individu.
Un mois plus tard, tandis qu'il erre dans sa forêt du Montana, Theodore Kaczynski est pris d'un doute lancinant. Aurait-il commis une erreur ? Quelques jours plus tôt, il a vu son portrait robot sur plusieurs abribus dans la ville de Lincoln. Certes, le croquis n'était guère ressemblant. Mais qui sait ? Par un fâcheux hasard, un habitant de Lincoln pourrait faire le rapprochement avec lui et prévenir la police. C'est un risque. Et Théodore déteste la notion de risque. Depuis le début, il n'a jamais commis le moindre faux pas. Alors, peut-être est-il temps de faire une pause, interrompre les opérations pendant quelques mois, le temps que les taux se desserrent un peu. Théodore est plus malin que ces idiots de tueurs en série qui multiplient les crimes jusqu'à se faire prendre. Lui, au contraire, sait faire preuve de patience. Après tout, le temps est la plus grande ressource dont il dispose.
Échec total pour le FBI. La diffusion du portrait robot n'a rien donné. Les enquêteurs ont été submergés d'appels pendant près d'un an, mais tous les témoignages se sont révélés bidons. Une fois encore, l'enquête n'a débouché sur aucune piste sérieuse. Mais ce n'est pas le plus troublant. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est l'arrêt soudain des attaques de Yuna Bomber. Plusieurs mois se sont écoulés sans le moindre attentat. Et bientôt, les mois se changent en années. 6 ans passent, durant lesquels plus aucun colis piégé n'est à signaler. Au fil du temps, le FBI s'interroge. Yuna Bomber a-t-il décidé d'arrêter ? Peut-être s'est-il suicidé, comme la plupart des tueurs en série après un certain temps ? Mystère total. Toutefois, une hypothèse retient l'attention des enquêteurs. Et si, tout simplement, Yuna Bomber était mort dans l'explosion accidentelle d'une de ses propres bombes ? Il n'y aurait rien d'étonnant à cela. À force de manipuler des explosifs, il se serait tué sans le vouloir. Peu à peu, l'intérêt pour Yuna Bomber finit par décliner dans la population, mais aussi chez la police. On retire l'affaire aux agents du FBI, et nombreux sont ceux qui pensent en avoir fini pour toujours avec ce tueur insaisissable.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Février 1993, Théodore Kaczynski jubile. Le journal qu'il s'est acheté ce matin en ville lui procure une joie indicible. En page de couverture, un premier article relate l'attentat qui vient d'avoir lieu au World Trade Center. Une voiture piégée lancée sur le bâtiment a tué 6 personnes et en a blessé 1000 autres, créant une vague de terreur dans tout le pays. Le deuxième article, un peu plus loin dans le journal, fait état d'une attaque menée par la police contre un groupe religieux près de Waco, au Texas. Bilan, 86 morts chez les membres de la secte. Théodore est au comble de l'extase. Suite à ces deux événements, le climat politique aux États-Unis n'a jamais été aussi tendu. La société tout entière est crispée, donc vulnérable. C'est le moment d'agir. Après 6 ans d'attente, il sait que son heure est venue. Yuna Bomber est prêt à revenir sur le devant de la scène. Il faut frapper fort, et tout de suite.
Le matin du 22 juin 1993, le généticien Charles Epstein, de l'Université de Chicago, reçoit un colis par la poste sous la forme d'une petite boîte en bois. La bombe qui s'y trouve explose lorsqu'il ouvre et le défigure gravement. 2 jours plus tard, le professeur d'informatique David Gellernter, de l'Université de Yale, est victime à son tour d'un colis piégé. La bombe le blesse au bras droit, à l'œil et à l'abdomen. Rapidement sur place, le FBI analyse les explosifs. Et la vérité apparaît alors aux enquêteurs, dans son effroyable évidence. Yuna Bomber est de retour.
Théodore ne perd plus de temps. À peine a-t-il envoyé ses 2 bombes qu'il s'empresse de passer à la suite du plan. Dans sa cabane, muni d'une vieille machine à écrire, il rédige une lettre qu'il fait parvenir au New York Times. Ce courrier constitue la deuxième partie de sa stratégie.
Avec le retour de Yuna Bomber et la crainte que les attentats reprennent, une décision est prise au FBI. L'agence crée une escouade spéciale dédié uniquement à la traque du poseur de bombes et doté de moyens financiers et humains énormes. À peine mise sur pied, cette escouade est sollicitée par le New York Times qui vient de recevoir une lettre de Yuna Bomber. Les enquêteurs se rendent sur place et analysent le courrier. Il est signé FC, comme la gravure figurant sur les bombes, et contient un texte de plusieurs pages dans lequel Yuna Bomber se présente non pas comme un individu isolé, mais comme un groupe d'anarchistes voulant sauver l'humanité. Les enquêteurs sont perplexes. Est-ce la vérité? Eux qui pensaient traquer un loup solitaire, se peut-il qu'ils aient affaire à un réseau complexe, nombreux et radicalisé? Ou est-ce une fausse piste supplémentaire, créée par celui qui joue avec leurs nerfs depuis des années?
Théodore a pris plaisir à écrire cette lettre. Il s'est amusé à y glisser toutes sortes d'indications trompeuses, notamment un numéro qu'il a choisi au hasard et placé sur l'entête. 553 25 4594. Cela donnera un peu de distraction aux enquêteurs. Mais ce premier courrier importe peu. Il ne constitue qu'une étape en vue d'une seconde lettre qui, elle, sera beaucoup plus intéressante.
Bien entendu, le FBI se penche avec attention sur le numéro figurant sur l'entête. Peut-être s'agit-il d'un indice. Après quelques recherches, les enquêteurs découvrent qu'il s'agit du numéro d'assurance sociale d'un criminel, un ex-prisonnier, aujourd'hui en liberté conditionnelle. Le FBI croit tenir une piste. En lisant son dossier, on découvre que ce prisonnier a un tatouage sur le bras, sur lequel est écrit « Pure Wood ». Wood. Comme le bois. C'est forcément notre homme. Mais alors qu'on s'apprête à procéder à son arrestation, l'un des enquêteurs réalise qu'il ne peut s'agir de Yuna Bomber. Le suspect était incarcéré au moment des attentats. C'est donc une fausse piste. Une de plus. Cette fois, un profond sentiment d'amertume s'empare de l'escouade en charge de la traque. Mais un nouvel espoir redonne bientôt force au FBI. En analysant le courrier du New York Times à la lumière infrarouge, les analystes ont découvert une note manuscrite presque invisible. Quelques mots, écrits dans la marge. « Appelez Nathan R. mercredi à 19h ». Les enquêteurs sautent sur l'occasion. Même si la tâche s'annonce colossale, ils entreprennent de recenser les citoyens américains prénommés Nathan, dont le nom de famille commence par un R, puis de vérifier méthodiquement tous leurs antécédents. L'opération est fastidieuse. Après des mois de recherche, elle s'achève par un échec total du FBI et un découragement terrible de tous les agents mis sur l'affaire.
De son côté, Théodore se sent revivre. Passer à l'action après 6 années d'hibernation lui donne l'impression d'être invincible. Tandis que la presse annonce les déboires des enquêteurs, Théodore, quant à lui, s'exécute avec une énergie et un enthousiasme débordant. Le 10 décembre 1994, il envoie un colis piégé à Thomas Mosser, cadre d'une agence de publicité domiciliée dans le New Jersey. La quantité d'explosifs placés dans la bombe est telle que la déflagration détruit l'intégralité du rez-de-chaussée, tuant Thomas Mosser sur le coup. Mais Théodore ne s'arrête pas là. Il a soif de sang. Et sa technique de fabrication des bombes s'est tellement améliorée qu'elle ne laisse plus aucune chance à ses victimes. Le 25 avril 1995, il envoie un colis piégé à l'Association forestière de Californie, considéré à ses yeux comme un lobby infect cherchant à détruire la nature. Le président de l'association, Gilbert Murray, décède sous la puissance dévastatrice de l'explosion, qui ravage l'entièreté du bâtiment et sera perçue par les riverains sur des kilomètres à la ronde.
Les enquêteurs du FBI ne baissent pas les bras. Collecte d'informations, témoignages, analyse des bombes, interrogatoire de milliers de suspects potentiels, l'escouade spéciale travaille d'arrache-pied dans cette course contre la montre. Désormais, les morts se multiplient. La durée entre chaque attaque se resserre. Et c'est dans ce contexte tendu qu'en avril 1995, les enquêteurs reçoivent un appel du Washington Post et du New York Times. Les deux rédactions avertissent le FBI qu'elles viennent de recevoir un courrier de Yuna Bomber. Et pas des moindres. Cette fois, le terroriste leur propose un marché. Il va bientôt leur faire parvenir un manuscrit d'une importance capitale. Un texte militant qui révolutionnera le monde à jamais. Si les journaux acceptent de le publier dans son intégralité, les attaques à la bombe cesseront. L'auteur du courrier en fait la promesse. Pour peu qu'on lui obéisse, il renonce pour toujours à commettre de nouveaux meurtres. Mais s'il refuse, alors une vague d'attentats comme les États-Unis n'en ont jamais connu s'abattra sur le pays. À présent, le choix est entre leurs mains.